This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va particulièrement intéresser tous ceux qui se sentent souvent fatigués, épuisés et qui aimeraient retrouver toute leur énergie. Vous connaissez Jack, il était mon invité sur l'épisode 182 et vous aviez adoré l'épisode que j'avais fait avec lui. 90 000 vues sur YouTube, des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify, des chiffres hallucinants pour un épisode technique. Et bien figurez-vous que Jack, il a longtemps lutté contre la fatigue chronique, contre les coups de mou, contre cette sensation d'être constamment épuisé dans sa journée. Et bien devinez quoi, il a réussi à transformer sa vie en appliquant les bonnes méthodes et des techniques simples et efficaces. Et il a créé une formation qui est révolutionnaire et qui s'appelle 30 jours énergie. Elle permet de retrouver sa vitalité et sa motivation en seulement 30 jours. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de suivre ce programme de formation en intégralité. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant et extrêmement qualitatif. On y retrouve des techniques pour améliorer son alimentation, pour améliorer son sommeil, pour gérer son énergie. Et franchement, il y a des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines qui sont vraiment novatrices et je les ai découvertes au fur et à mesure de la formation. Et en plus, Jack, il explique super bien, il est passionné par son sujet et il transmet ça à merveille. Et aujourd'hui, eh ben, je vous propose, vous aussi, de découvrir le programme 30 jours énergie. On en a longuement parlé avec Jack et on a décidé de vous faire un super cadeau. Alors, vous connaissez mon talent pour la négoce et en tant qu'auditeur du podcast, Jack a accepté de vous offrir une réduction de 100€ sur le prix de la formation. Et pour en profiter, c'est très simple. Vous allez dans la description de n'importe quel épisode, vous cliquez sur le dernier lien qui correspond normalement à la lettre, mais vous serez redirigé vers la formation. Et vous pouvez aussi retrouver la page en tapant directement dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com/énergie. Cette offre, elle est valable uniquement cette semaine, alors ne la manquez pas. C'est une opportunité en or pour dire adieu à la fatigue et retrouver une énergie constante. Par exemple, vous allez notamment apprendre comment modifier vos repas pour booster votre énergie, comment avoir un sommeil plus réparateur, quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour gérer son énergie au quotidien, quels sont les meilleurs compléments à prendre. Bref, c'est rempli de conseils pratiques, de routines simples et d'astuces qui sont efficaces pour que vous puissiez vous sentir au top de votre forme. Et en plus, Jack, il est tellement confiant dans l'efficacité de sa méthode qu'il vous offre une garantie. Si vous ne voyez pas d'amélioration dans votre énergie dans les 30 jours, vous serez remboursé intégralement. Vous avez donc absolument rien à perdre. Donc, je répète une dernière fois, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode ou alors vous tapez biomecaniquepodcast.com/énergie dans votre barre de recherche et vous aurez la réduction de 100€ sur la formation. La promo se termine dimanche prochain, le 26 mai. Traînez pas et maintenant, place à l'épisode.
Monsieur Récup, c'est les gens qui m'ont donné ce surnom-là. Si tu veux, moi, je vais chercher des gens. Par exemple, je passe 5 minutes sur Instagram et je vois que la personne, elle fait beaucoup, beaucoup de sport, mais je la vois jamais récupérer ou etc. Bah là, je vais lui dire, bah, si tu connais pas les différentes techniques, je te propose de venir chez Paul. On s'entretient quelques minutes et moi, je vais t'expliquer les solutions qu'il y a pour mieux récupérer.
Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps, à améliorer vos entraînements sportifs, à faire disparaître vos douleurs et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des sportifs et des spécialistes de leur domaine. On y parle de sport, de performance, de remise en forme, de thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels qui m'accompagnent à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal et on va s'intéresser aujourd'hui à la récupération. Que vous soyez sportif, professionnel ou simple amateur d'ailleurs, toutes les réflexions et les méthodes qu'on va aborder dans cet épisode vont vous être grandement utiles si vous voulez durer dans le temps, dans votre sport et améliorer votre forme de manière globale. Alors surnommé Monsieur Récup, Steve Compagnon que je reçois aujourd'hui est spécialiste de la récupération physique et psychique et il a fondé le Pôle Récup qui est un centre de cryothérapie à Paris qui accueille sportifs et non sportifs qui voudraient prendre soin d'eux, faire une escale de remise en forme dans un quotidien qui va toujours plus vite et qui parfois nous empêche de prendre soin de son corps et de son esprit. Steve est aussi un sportif aguerri, il est personal trainer, hypnothérapeute de formation. Il a coaché de nombreuses personnes pendant des années avant de complètement se passionner pour le monde de la récupération. Il dit, je le cite, « Je me suis aperçu en les accompagnant depuis plusieurs années que les gens ne pensent pas à récupérer de façon générale. Ils font de plus en plus de choses, sont de plus en plus fatigués et stressés. » Donc, dans cet épisode, vous allez découvrir toutes les meilleures méthodes de récupération actuellement connues et disponibles. On va parler de cryothérapie, d'acupression, massage, d'étirement, de fasciathérapie, ostéo, posture. On va discuter des effets du froid et du chaud sur les muscles, quoi choisir et dans quel contexte. Est-ce que prendre des douches froides pour améliorer votre récupération est vraiment efficace? On a discuté de la méthode Wim Hof, comment diminuer le stress et le surmenage du quotidien avec des méthodes simples qu'on va aborder un petit peu plus loin dans l'épisode. Si vous êtes intéressé pour recevoir mes meilleurs conseils pour améliorer votre santé, vos performances, être au fait de l'actualité pour vous permettre d'adapter vos entraînements à votre morphologie, vous débarrasser de vos douleurs et éviter au maximum l'apparition de blessures, alors vous pouvez rejoindre mes emails privés. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire gratuitement à la lettre biomécanique à biomecaniquepodcast.com/lettre. Je vous laisserai aussi le lien directement dans les notes de l'épisode si vous êtes intéressé. Sans plus attendre, voici ma conversation avec Steve Compagnon, alias Monsieur Récup. Et moi, je vous retrouve en fin d'épisode. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta première expérience d'abord personnelle en cryothérapie, si tu t'en souviens, la première fois que t'es rentré dans cette grosse machine, comment c'était pour toi?
Ouais, effectivement, moi, il y a à peu près 6 ans, j'étais assez curieux et déjà adepte de pas mal de techniques de récupération, soit le massage, les jambes en l'air, enfin, les bas de contention, des choses que ça fait un petit moment que ça existe, quoi. Et pas mal de personnes me parlaient de la récupération par la cryothérapie corps entier, et il y avait très peu de centres il y a 6 ans à Paris. J'ai été dans le premier qui a ouvert, il avait ouvert à 7-8 ans, je crois. Et donc oui, j'ai fait une première séance, franchement ça s'est bien passé. Moi je suis pas quelqu'un de peureux, enfin, ça peut paraître un petit peu bizarre de se mettre dans un tube et d'injecter du froid, mais c'est vrai qu'en ressortant, on s'en va super bien. Donc moi, j'ai eu une bonne première expérience.
Ok. C'est quoi l'effet qu'on ressent exactement quand... Personnellement, je l'ai jamais expérimenté encore. Je suis curieux, j'ai envie de le faire. Mais on ressent quoi dans ce bloc?
Bah, on va dire que l'idée, c'est vraiment que on va chercher un choc thermique. Donc... on va dire que de 0 à 1 minute, on est un peu interrogé. Et quand le froid saisit bien le corps, c'est OK. On sait qu'on est quasi à la moitié. On a toujours quelqu'un en face de soi qui nous parle. Si on est un peu bavard, on peut parler un petit peu de sport ou autre, de problèmes qu'on a personnellement. Et puis voilà, la séance, ça se passe assez vite, assez bien. Et l'effet est là, et c'est surtout le après qui est intéressant, où on se sent vraiment apaisé, détendu,
Ouais.
Vraiment, vraiment relax.
Est-ce que ça ressemble à quand on prend une douche froide, par exemple, après une séance de sport, quand on a couru ou on a fait quelque chose d'un peu intense, on prend une douche froide et on a vraiment cette sensation après que la circulation sanguine s'est nettement améliorée. Je sais pas si c'est un effet placebo, si c'est dans la tête également, si ça joue physiquement. Mais tu sais, on se sent bien, un peu comme si on avait vraiment relâché des tensions, ou en tout cas qu'on avait fait circuler, qu'on avait débarrassé le muscle des toxines et de tout ce qui fait qu'il va y avoir des courbatures derrière.
Ouais, ouais. Bah, la douche froide, c'est sûr que la douche froide, c'est très très bon, hein. Ça, c'est connu depuis longtemps. Ça améliore évidemment le retour veineux. L'effet vasoconstricteur se produit au contact du froid. Maintenant, il n'y a pas une immersion totale du corps dans le froid, donc ça sera pas exactement pareil. Maintenant, bon, bah, c'est déjà une très bonne chose. L'idée, c'est de faire circuler le sang dans ton corps pour un meilleur drainage, quoi. Donc plus il y a un drainage important au corps, plus meilleur de l'oxygène est. Enfin, voilà, c'est un tout. Donc la douche froide, c'est très bien. De la douche froide, tu peux passer au bain froid et c'est toujours aussi bien. Maintenant, le contact de la peau dans l'eau, c'est déjà psychologiquement, c'est un peu plus dur parce que le froid humide et le froid sec de la cryothérapie, c'est quand même différent. Quand t'es mouillé, t'as beaucoup plus froid que le froid sec de la cryo. Maintenant, on peut pas dire que les effets sont les mêmes. Les gens qui commencent à faire la différence entre, par exemple, le bain froid ou la cryothérapie. Pour avoir les mêmes effets, ils disent qu'il faut rester un peu plus longtemps dans le bain, et c'est certain.
Ok. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas exactement comment ça fonctionne, et bon, j'avoue, j'ai quelques pistes de réflexion moi-même et quelques idées, mais je suis curieux aussi de savoir c'est quoi exactement l'effet du froid sur les muscles et même sur le système nerveux. Comment ça pourrait s'expliquer simplement, si je sais pas, tu peux... tu as une des idées comme ça, tu sais un peu comment ça fonctionne.
Oui, un petit peu. C'est, évidemment, les bienfaits du froid, bah, ils sont multiples, hein, mais le froid provoque sur le corps, je l'ai dit tout à l'heure, une vasoconstriction, donc une réduction du calibre des vaisseaux sanguins, donc qui amène immédiatement une vasodilatation. Donc la vasodilatation, c'est l'augmentation du calibre sanguin, donc du coup, bah, réduction puis augmentation, bah, ça crée, du coup, ça améliore ton débit sanguin. Donc là, les vaisseaux se rétractent puis se dilatent. Donc du coup, vu que c'est court, quand on sort de la chambre, il y a forcément, ça entraîne une modification de flux sanguin et d'oxygénation des tissus. Si on parle d'action sur la douleur, le froid, on le sait tous, quand on se fait mal, ou si par exemple on se fait un petit bobo, ou on se cogne la cuisse sur un meuble, on va créer un bleu, quoi, et tout de suite on a pour habitude de mettre du froid. Bah, pourquoi? Parce que ça anesthésie, en fait, ça anesthésie les récepteurs cutanés, et du coup ça diminue la vitesse de transmission de l'afflux nerveux. Donc en fait, c'est la sensation du froid prend le dessus. Tous les autres bienfaits donc du froid, bah en fait, c'est le libérateur d'endorphines, donc l'hormone du bien-être. C'est pour ça que, quand je te disais tout à l'heure, que quand on sort d'une séance de cryothérapie, on se sent détendu, relaxé. Et d'ailleurs, à ce sujet, il n'y a pas que des sportifs qui viennent faire de la cryothérapie, parce que on voit que les profils, on va dire, alors j'ai des dépressifs, j'ai des personnes qui sont stressées, j'ai tout profil qui viennent faire de la cryothérapie, et du coup viennent chercher ce moment détente là après la séance, où on leur sert un petit thé, et du coup ils sont 10-15 minutes sur le divan à vraiment se détendre, quoi, et prendre du temps pour eux. Pour revenir un petit peu aux effets, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, le froid, c'était un petit peu anti-inflammatoire, hein, donc déjà voilà. Ça a effet aussi de ralentir le rythme du cœur, même si au début de la séance, est plus en augmentation qu'en ralentissement, mais.
Parce que c'est considéré comme un stress immédiat par le corps au début. C'est ça. C'est pour ça que t'as l'activité.
C'était vraiment au tout début, parce que c'est vraiment au tout début, parce qu'il y a vraiment des personnes, et ça, c'est vraiment tout profil. Il y a vraiment là, en 4 ans, on a pu observer des gens qui, pour la première fois, étaient interrogés parce qu'on leur a dit d'essayer la cryothérapie. Donc ils arrivaient, ils étaient tout contents, et au moment de quand ils étaient face à la cabine, ils devenaient blancs comme le mur, quoi. Et du coup, là, il fallait un petit peu les coacher mentalement pour les préparer et leur dire que c'était OK.
OK, c'est marrant, ça, parce qu'en fait, ils avaient peur. Ils avaient un stress.
Alors c'est pire, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur au début, mais quand ils sont arrivés face à la machine, ils ont eu vraiment très peur.
Ah ouais, d'accord, ils avaient une angoisse qui est apparue juste devant et ils sont devenus livides.
Angoisse apparue, voilà, ils sont vraiment devenus mais blancs, et du coup, bah, si on ajoute là-dessus un stress, l'angoisse, etc., forcément, on va moins ventiler, on va être moins détendu, et vraiment, plus on est détendu, mieux la séance se passe. C'est aussi pour ça que moi, j'ai décidé, au début, à l'ouverture, enfin, à la création du centre, d'opter pour vraiment des machines très, très quali, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de machines de cryothérapie sur le marché aujourd'hui, de plus en plus. Et la machine que j'ai, moi, c'est la CryoSense. En fait, elle peut on peut avoir un élan de chaud, en fait. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de gros sèche-cheveux qui est envoyé dedans pendant 45 secondes. Et en fait, ça a deux choses. Ça te permet deux choses. Donc, déjà, d'intensifier ton choc thermique. C'est-à-dire que tu es, on va dire, beaucoup plus détendu quand on passe des Caraïbes au pôle Nord, quoi. Et la deuxième chose qui va servir aussi, c'est, par exemple, si une personne est un peu transpirante, ça va la sécher. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et donc du coup ça joue beaucoup sur les séances parce que je ne connais pas d'ailleurs d'autres machines qui envoient une chaleur sèche chaude avant la séance de cryothérapie.
Ok, c'est intéressant. On pourra revenir un peu sur le matériel comme ça, les choses un peu plus techniques après, parce que je trouve ça curieux, tu vois, d'en discuter. Moi, ça m'intéresse. Pour revenir, parce que ça me fait rire, je sais pas si ça intéressera notamment les auditeurs hein, de savoir ça, mais c'est vrai que cet effet où quand t'as un stress intense comme ça, tu deviens livide parce que t'as le sang qui vient s'accumuler sur les organes dits essentiels. Et la peau en l'occurrence n'est pas considérée à ce moment-là comme un organe essentiel, c'est pour ça que le sang est chassé directement vers ces organes, que comme il y a moins de sang dans la peau, la peau en tout cas du visage paraît plus livide, plus blanche, donc c'est l'effet du stress, et c'est un truc, tu vois, ça m'est revenu là, que j'avais lu complètement par hasard, que c'est exactement pareil pour la peur du sang. Tu sais, ceux qui voient du sang, ils deviennent livides parce qu'en fait, ils s'imaginent, en voyant du sang, c'est un petit peu comme s'ils font un transfert sur eux-mêmes, en s'imaginant qu'ils étaient en train de perdre leur propre sang, et par stress, le corps va amener tout le sang dans les organes, comme s'ils pensaient qu'il y avait une hémorragie et qu'ils voulaient garder tout le sang dans les organes essentiels. Voilà, bon, j'ai pensé, je me suis dit, je vais le dire, peut-être que ça pourrait intéresser les gens. C'est des petites anecdotes marrantes.
Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. En fait, si tu en reviens au fait que si la personne respire mal, elle va penser qu'elle va mourir, en fait. Et donc, pareil, pendant une séance de cryothérapie, aujourd'hui, sur 4 ans d'ouverture, on a je sais pas combien de passages en cryothérapie, je crois qu'on a eu deux personnes qui sont tombées, enfin dans le sens où ils n'ont pas perdu connaissance, mais ils ont eu un petit malaise vagal, quoi. Alors ce qu'on a constaté, c'est que des personnes qui étaient déjà un peu stressées et s'ils n'avaient pas mangé, par exemple, ça pouvait vraiment avoir l'effet de la tête qui tourne, parce que le corps il n'a pas d'énergie pour tenir, quoi.
Ok, mais ça c'était directement dans la cabine de cryothérapie.
Ça, c'était ouais, en pleine séance.
Ah, en pleine séance. Et comment, c'est quoi votre protocole de sécurité à ce moment-là pour être sûr que si jamais il y a un malaise de ce type, que vous soyez en capacité d'éviter peut-être que la personne tombe ou quoi. Quel est votre process pour ça?
Alors déjà, étant donné que la machine, elle est pas, c'est pas gros hein, dedans, donc quand la personne tombe, elle peut pas du tout se faire mal, ça c'est pas possible. Et du coup. Si vous voulez, c'est vraiment un malaise vagal. Donc la personne, dès qu'on ouvre la porte, la séance s'arrête instantanément et la personne elle revient avec nous, quoi. Il y a vraiment pas de problème majeur à la cryothérapie. Hein. Et je vous dis, en 4 ans, c'est arrivé deux fois, donc. Pas de problème.
Et alors, en comparaison, on parle beaucoup de l'effet du chaud sur la relaxation musculaire. Et puis bon, sans le cacher, moi, c'est vrai que dans mes consultations, souvent, lorsqu'il y a des douleurs qui s'apparentent à des douleurs qui sont d'origine un peu musculaire aussi, j'ai tendance à conseiller d'appliquer du chaud plutôt que du froid. Le froid va aider un peu plus à drainer, mais le chaud va permettre au muscle de se détendre, généralement. Et donc, si on part de ce postulat, est-ce qu'on peut se dire que c'est contradictoire, chaud-froid sur la relaxation musculaire, ou au contraire ça peut être complémentaire?
Non, justement, je pense que c'est bien, je pense que ça peut être très complémentaire. À l'opposé du froid, la chaleur, elle exerce un effet aussi décontractant qui forcément induit aussi un relâchement des muscles et favorise l'élasticité des tissus. Après, C'est aussi lié à une vasodilatation qui améliore donc la circulation sanguine, tu l'as dit. Le chaud aussi, c'est un allié aussi antidouleur. Hein. Et moi, avec tout ce que j'ai fait, que ce soit en coaching ou ce que j'ai fait par rapport à mes pratiques sportives, etc., c'est toujours, je l'ai plutôt utilisé en cas de contracture et tension, on va dire, des tissus. Tout ce qui est torticolis, courbatures, douleurs menstruelles, etc. Donc ça, c'est plus sous forme de douche chaude, bouillotte, etc. quoi.
D'accord. Alors bon, toi, sur Instagram, si les gens veulent aller voir, il y a marqué dans ta bio, Monsieur Récupération. Je suis pas passé à côté, j'ai trouvé ça marrant. Donc on peut en conclure, tu vas me dire si c'est le cas, que tu as une... Il t'est venu une passion pour tout ce qui est récupération. Et je me demandais quel a été ton parcours sportif et comment, petit à petit, peut-être par rapport à ton sport, par rapport à des blessures que tu as eues, comment t'es venu cette passion pour la récupération, cette envie de creuser sur ce sujet-là. Est-ce que, moi je me suis noté des choses comme est-ce que t'as eu des périodes de burn-out, comment t'as eu une prise de conscience, une expérience spécifique sportive qui t'a forcé à t'intéresser, à mieux récupérer par exemple.
Alors par rapport à déjà Monsieur Récup, je te réponds assez franchement, c'est les gens qui m'ont donné ce surnom-là à force. On va dire que c'était à peu près à la moitié du temps, donc c'était il y a 2 ans quoi, à peu près, à force de si tu veux, moi je vais chercher des gens. Par exemple, je passe 5 minutes sur Instagram et je vois que la personne elle fait beaucoup de sport, mais je la vois jamais récupérer, ou elle est toujours intense et elle dit elle est fatiguée, etc. Bah là je vais lui dire je te propose si tu connais pas les services de la récupération, les différentes techniques, je te propose de venir chez Paul, on s'entretient quelques minutes et moi je vais t'expliquer les solutions qu'il y a pour mieux récupérer. Donc ça, c'était là pour répondre à ta question de Monsieur Récup. Pour ma pratique sportive, moi, à peu près vers l'âge de 10 ans, je me suis mis à faire pas mal de VTT avec des copains. Après, c'est passé des copains au club, des clubs en compétition, donc pas mal de choses, surtout en relais, comme des 3 heures ou des 24 heures de vélo en équipe. Après, je suis venu un petit peu plus au vélo de route, puis un peu plus au triathlon, toujours sur des formats plutôt courts, S ou M, car je suis plutôt moi dans l'explosivité pardon que dans l'endurance. Parce que le format L ou Ironman, pour moi, c'est trop long. Et avec la vie que j'ai aujourd'hui, les enfants, le travail, etc., j'ai vraiment pas le temps de m'entraîner autant pour un Ironman. Pour moi, perso, je suis donc coach sportif depuis plus de 10 ans. Je suis aussi hypnothérapeute, préparateur mental. Donc, j'ai fait partie de la première formation hypnosport, donc de Jonathan Bell-Legroux, qui a écrit un bouquin dernièrement d'auto-hypnose. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose d'amener aujourd'hui l'hypnose dans la préparation mentale du sportif. Il faut savoir que dans les préparateurs mentaux sport, c'est vraiment du conscient à conscient. Il n'y a pas de, ils avaient pas utilisé encore l'hypnose. Et je trouve que pour débloquer des peurs, des craintes, la confiance en soi, etc., sur des choses, sur vraiment les sportifs, c'est vraiment ça va assez vite. Franchement, j'ai eu quand même recours à beaucoup de séances, que ce soit pour pilotes, golfeurs, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se déverrouiller vraiment une ou deux séances. Pourquoi je suis arrivé à vraiment m'intéresser sur la récupération? À force de voir déjà la qualité de vie des gens, moi je suis coach sportif, la majorité de mes clients c'est des cas de sup qui sont vraiment stressés, qui sont au taquet, qui sont tout le temps à bloc. Je suis venu à me dire mais tout le monde en fait de plus en plus et récupère de moins en moins. Donc j'ai voulu apporter des solutions pour que les personnes soient sur le plan physique, différents sportifs, etc., ou physique et mental, que ce soit le mental d'un sportif ou, comme je disais tout à l'heure, le stress, l'anxiété, le manque de sommeil, pour qu'il récupère mieux. Donc là, c'est clairement de l'éducation. Après, on le voit bien, hein, si l'individu récupère plus, forcément, elle sera mieux sur tous les plans. Et pour ça, donc, il faut se poser, prendre du temps pour soi, mais du coup, agir. Forcément, si tu récupères pas assez, ça se bloque. Si je te donne un exemple, qui est pas du tout sur le sport, mais si tu travailles beaucoup, si t'es sur un dossier qui te prend pas mal de temps, etc. Si tu prends pas de pause à un moment donné, les idées viennent plus. Donc, alors, or si tu prends une pause toutes les heures ou toutes les heures et demie, tu te lèves, tu vas faire un tour, tu vas boire un café, t'appelles un collègue, et du coup tu te remets au boulot derrière, t'auras fait une pause, t'auras créé un temps où ton cerveau se sera déconnecté de ce que tu faisais, et du coup c'est souvent dans ces temps-là que ton inconscient te donne les idées, te donne des élans. Je te parle de ça pour les écrivains, pour les vraiment tout corps de métier, quoi.
Mmh, ouais, c'est vrai.
Donc vraiment la récupération, c'est vraiment pour toute personne et tout profil.
Et c'est marrant parce que pour corroborer ce que tu dis, on dit souvent que les meilleures idées arrivent au moment où on s'y attend le moins. Et par exemple, on a souvent des bonnes idées sous la douche, alors qu'on n'est pas du tout dans un état de concentration, un état actif sur la tâche dont on veut trouver l'idée, puis elle arrive un petit peu plus tard, comme ça, dans un endroit ou dans un lieu ou un événement qui n'a complètement rien à voir. Ce qui montre un peu que cette espèce de contrebalancement de action intensive et relâchement et oubli complètement permet d'avoir une espèce de bon équilibre pour justement les deux viennent s'alimenter l'un l'autre, quoi.
C'est ça, faut jamais forcer en fait. Faut jamais forcer et puis faut être. De toute façon, on le voit même que ce soit dans le sport, dans tout le monde parle maintenant d'intervalle training, etc., de les entraînements croisés, etc. En fait, on s'aperçoit que avec la vie, c'est pareil. Il suffit pas de faire des marathons tout le temps. Plus vous croisez la façon de vivre, de faire. Et mieux vous serez, quoi, parce qu'il n'y aura pas de lassitude, que ce soit au niveau du corps, au niveau de la tête. Du coup, pareil pour les dossiers, quoi. Si tu te mets toute une journée sur un dossier.
Et ouais, mais c'est sûr que c'est pas hyper bon pour la tête, pour le dos, pour le corps, pour tout, en fait. On parle souvent de récupération active, récupération passive. Pour une petite définition extrêmement simple, l'active c'est que on va faire en sorte, enfin je veux dire, on va la personne va faire des étirements par exemple, ou alors un petit footing d'écrassage, ce genre de choses. Tu vas me reprendre si je suis pas complètement dans les termes, dans les exemples optimaux. Mais en gros, c'est on fait un effort pour récupérer. Ça c'est la récupération active. Et la récupération passive s'assimilerait plutôt à on fait rien, on laisse le corps de lui-même récupérer. Par exemple, on va faire une sieste, on va lire, on va faire une séance comme de cryo, on va encore que ça c'est peut-être de la récupération active, mais tu vas me dire si comment on peut classer les choses. Ou par exemple, on va faire un bain, on va se baigner à l'eau chaude, à l'eau froide, peu importe, histoire de se relaxer. Pour toi, est-ce que déjà je catégorise bien, je me suis pas trompé, et quelle est la meilleure récupération selon toi?
Il n'y a pas de meilleure récupération. Déjà, si tu récupères, déjà c'est bien. Moi, là où je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la récupération active, c'est très très bien. Juste par exemple, si la personne est un marathonien ou un coureur, évidemment que la personne elle est piquée sur ce sport, et donc du coup elle va pas instinctivement se dire mon corps je le traumatise à courir, etc. Enfin, traumatise, j'y vais un peu fort, mais dans le sens où que ce soit les segments, les muscles, tout ce qui est genou, dos, les articulations, etc. Donc ils sont soumis à des tensions, des efforts. Donc du coup l'idée ça serait de, pour que la récup active soit encore meilleure, par exemple de faire du vélo ou d'aller nager tranquille, vraiment de dérouler ses jambes, le corps. L'idée, ça serait de, forcément, sur une récupération active, c'est pas de mettre de l'intensité. Donc ça, c'est ok, c'est ce que tu as dit.
Mais ça, excuse-moi, je te coupe. Juste, j'aimerais comprendre en quoi de faire les mêmes mouvements que ce qui te provoque. Je vais essayer d'être clair. C'est pas facile. Des fois, j'ai du mal à verbaliser exactement ce que je veux dire. Mais donc là, par exemple, quelqu'un qui ferait du marathon, donc c'est ce qui provoque sa dégradation du corps, etc. Enfin, ce qui le met dans un état inflammatoire, dans un état de destruction, dans un sens. Quelqu'un qui va courir pour une performance. Et le fait de faire exactement le même mouvement, mais en intensité beaucoup plus modérée, à savoir le petit footing tranquille de pas très long, juste pour bouger les jambes, comme tu dis. En quoi ça améliore la récupération, en fait, puisque on est sur le même mouvement mais en intensité modérée? Est-ce que tu as une idée sur ça?
Bah, ce qui se passe, c'est que déjà il y a pas le même niveau système nerveux, il y a pas l'effort est pas le même, donc on se met pas dans le rouge. C'est pour ça que pour moi, quand tu disais faire le petit footing, alors que tu es un sprinter, du coup les personnes elles vont penser qu'elle fait pas on va dire elle fait pas du mal à son corps, parce qu'elle va pas s'entraîner et se faire du mal. Mais du coup c'est pour ça que moi, sur une récupération active, je préconise une autre façon de te faire du bien et de faire circuler ton sang, parce qu'en fait la récupération active, c'est quoi qu'il arrive un drainage. Donc l'idée, c'est de faire circuler ton sang et vraiment une séance détente pour aussi relâcher un peu la tête et voilà, y aller sans effort.
Et ne pas pousser au bout ton corps, ce qui te mettrait dans cet état d'intensité.
En fait, on vient pas chercher la fatigue, vraiment pas du tout.
D'accord. Donc récupération active. Est-ce que les étirements aussi sont considérés comme de la récupération active, j'imagine?
Oui, récupération active sur les étirements. Alors, on entend plein de choses, hein, sur les étirements. On est d'accord que les étirements, c'est vraiment une séance à part. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment fait. C'est pas fait tout de suite dès qu'on a fini son exercice ou sa séance. C'est bien de dissocier les phases d'étirement et d'effort. Donc oui, ça peut être fait par exemple sur le matin au lever, ou bien si on s'est entraîné le matin ou le midi, de le faire le soir, hein, de laisser vraiment un temps à la fibre musculaire de se relâcher et de reprendre un peu, parce que bah forcément quand on fait de l'effort, le muscle aussi se gorge de sang, la fibre a travaillé, ça sert à rien de lui demander un travail différent de celui qui a été fait tout de suite, quoi.
Et je renvoie d'ailleurs les auditeurs à un ancien épisode que j'avais enregistré avec Thomas Dero, qui nous donnait justement son avis, qui est ostéopathe du sport à Tahiti. Mm-hmm. Donc ça fait rêver déjà. Mais vous pouvez aller écouter cet épisode, parce que il nous donnait un petit peu sa vision de l'étirement, si c'était mieux de le faire juste après, juste avant. On a tous un peu notre avis par rapport à ça. C'est vrai que j'ai également évolué sur mon avis sur les étirements, justement. J'ai beaucoup regardé, j'ai réfléchi, j'ai écouté plusieurs personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, de ce qui a l'air de ressortir le plus sur le bon moment pour faire des étirements, déjà, c'est que il y a pas nécessairement de bon moment. Ça va surtout dépendre de l'objectif et du but pour lesquels on va étirer, vouloir étirer un muscle. À savoir que c'est vrai que pour une bonne récupération active dont on parle aujourd'hui, ça serait plus efficace de faire ça entre des séances de sport, sur des moments où on n'a pas traumatisé une fibre musculaire, et vraiment prendre son temps pour être dans effectivement la récupération, l'amélioration de l'élasticité, de la souplesse, et ça va permettre d'avoir une meilleure récupération musculaire des fibres en elles-mêmes, des tendons, des articulations aussi, dans un sens, même si bon, c'est encore un peu, je m'avance pas trop, parce que c'est des sujets à débat, ça, tu vois, étirer un tendon, c'est pas bon, c'est compliqué.
Et surtout faire ça aussi, c'est important de faire les exercices d'étirement vraiment en pleine conscience, c'est-à-dire avec vraiment travail aussi respiratoire, parce qu'il y a des gens qui s'étirent et qui se disent bah, « je comprends pas, je m'améliore pas », etc. Enfin, faut quand même aussi comprendre le corps, et c'est pas un élastique. Même si on dit que les tendons, etc., c'est élastique, mais non, c'est-à-dire que on voit bien que si la personne prend conscience, prend du temps, écoute, travaille sa respiration en même temps qu'elle s'étire, bah, elle va trouver vraiment plus de souplesse et une amplitude meilleure, quoi, assez vite.
Mmh, c'est vrai. En ayant conscience, comme tu dis, c'est de toute façon beaucoup plus intéressant. Ça va éviter de se blesser, de faire un surétirement, comme on peut l'appeler, par exemple.
Ça va trop vite.
Ouais. C'est vrai que on va dire qu'il y a une certaine élasticité, mais jusqu'à un certain point, dans le muscle, il y a des fibres élastiques. Il y a l'élastine, notamment, comme dans la peau, par exemple. Mais c'est vrai que passer un certain cap, c'est comme un élastique, hein. Ça pète, en fait. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur des déchirures musculaires localisées près du tendon, sur des mouvements, des exercices ou quoi. Et c'est pareil, en fait, si on effectue un étirement sur un muscle, sur un tendon à froid, sans vraiment prendre le temps de progresser, d'y aller tranquillement et d'avoir conscience de ce qu'on fait, comme tu dis, avec la respiration, avec tous ces éléments pour que ça soit bien fait, ben on peut se faire mal. On peut arriver finalement à faire quelque chose de délétère qui va entraver la récupération. Plutôt que l'améliorer, ce qui est con parce que c'est pas pour le coup l'objectif, quoi.
C'est sûr.
Donc on a vu la récupération active, donc par exemple faire bouger les membres pour activer la circulation sanguine et puis améliorer la récupération de muscles et de tout ce qu'il y a autour. On a les étirements. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme, on va dire, les moyens les plus efficaces encore pour améliorer sa récupération physique?
Les méthodes, il y en a vraiment plein. Aujourd'hui, on va déjà parler de base. Déjà, le bon sommeil, ça c'est vraiment la base. La récupération physique et mentale, c'est vraiment basé sur un bon sommeil. Un bon sommeil, c'est quoi? C'est déjà essayer de dormir à heure fixe. Pas trop tard, essayer d'avoir quand même un bon espace entre le fait de manger, donc dîner, et le coucher. La pièce dans laquelle on dort, c'est bien si elle est assez fraîche, on dit entre 18 et 20 degrés. Le moins de lumière possible, le moins de bruit possible. Donc ça, c'est vraiment important pour avoir le moins de perturbateurs par rapport à sa pièce de sommeil. Je pourrais m'étaler vraiment beaucoup plus longtemps sur les sujets, mais je préfère donner les bases.
Ouais, non, mais t'as complètement raison de le rappeler en plus, parce que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement comme ça, mais en fait qui fait pas rêver. Les gens, ils aiment bien. Et puis bon, moi aussi, je vais creuser un peu là aujourd'hui dans ces thèmes-là, aller chercher des techniques, aller chercher des nouvelles, des nouveautés, etc. Mais t'as absolument raison de rappeler que le sommeil, les heures de coucher, les heures de lever, c'est la base. Après, on va rajouter des petites améliorations par-ci par-là, mais si t'as pas ça, c'est vrai que déjà tu t'amputes d'un des moyens, si ce n'est le moyen le plus efficace pour déjà bien récupérer, quoi. Donc
le plus efficace, le plus naturel. Et puis il y a aussi des choses où les gens vont investir des milliers de cents dans des appareils, etc. Mais là où il faut vraiment investir, c'est dans le lit, quoi. La literie, elle est hyper importante. C'est quand même là où on passe le plus de temps de notre vie. C'est quand même dans notre lit. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir une literie de bonne qualité qui répond aux attentes, quoi. Donc là, vraiment, j'insiste, les auditeurs, à vraiment mettre la qualité et le prix dans la literie. Aujourd'hui, j'ai été forcément en contact avec pas mal de marques de literie, et j'ai été en contact, c'est assez drôle cette histoire, j'étais sur le salon du marathon de Paris, où j'étais donc exposant, et derrière moi il y avait un exposant de literie que je ne connaissais pas, qui s'appelle Matelas 365. Et puis en fait c'était les anciens directeurs de Dunlopillo qui ont monté leur marque de literie. Donc j'étais assez impressionné. On a échangé un petit peu sur le salon et du coup je leur ai dit mais voyons-nous au centre pour parler un peu plus, quoi. Et du coup ils lançaient leur marque de lit, une literie vraiment beaucoup plus saine. Donc en fait le dessus du lit est dézippable. Et donc du coup, il y a une housse été, une housse hiver un peu plus épaisse. Vous avez une espèce de fine couche qui chauffe le lit, donc là, on en revient à tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au chaud. Hein. C'est-à-dire qu'on va préchauffer son lit avant de rentrer dedans. Donc, je laisse imaginer les personnes qui entendent ça. C'est quand même un sacré kiff de rentrer dans un lit chaud. Enfin, en tout cas, l'hiver. Donc, et du coup, le matelas, vu qu'on a une possibilité de chauffer ce matelas, une fois par mois, on va le mettre en mode assainissement, en fait, où il va monter à 55 degrés et du coup, tuer tous les acariens du lit. Donc, en fait, le matelas, il est déjà hyper confortable parce qu'il y a une assise, un confort incroyable. Et du coup, il a des qualités, on va dire, saines tout le temps. C'est-à-dire qu'il est propre parce que vous le nettoyez et il est sain, il n'y a pas d'acariens. Donc la literie, voilà, je mets vraiment l'accent dessus, c'est vraiment un gros point. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site de Matelas 365.
Ouais, j'aurais fait un tour.
Autre chose, évidemment, en parlant d'alimentation, hein, ça, on va y parler assez brièvement, mais on le sait tous, pas d'aliments transformés, de saison, bonne cuisson, éviter les sucres. Ça peut être un sujet très très long. Je suis moi aussi en ce moment parce que j'arrête pas de me former, d'essayer de comprendre des procédés, etc. Je suis en formation avec Anthony Berthoud sur la nutrition. C'est incroyable tout ce qu'on apprend et du coup nous. Enfin moi j'ai 32 ans aujourd'hui et je vois la jeunesse que j'ai eue. Et les aliments que j'ai eu surtout dans mon assiette ou dans mon bol au petit déjeuner, c'est juste effarant, quoi. Moi, aujourd'hui, ma petite, elle a bientôt 2 ans et elle est à l'œuf à la coque et à la tartine d'avocat, quoi. C'était pas les mêmes. Moi, c'était les Kellogg's avec le bon lait dégueulasse. Enfin, bref. Donc voilà, aujourd'hui, on a quand même une connaissance de l'alimentation qui a quand même changé et on sait ce qui est plutôt bon et moins bon pour le corps, donc ça faut vraiment y faire attention. Donc pareil pour le sommeil, essayer de manger le moins lourd possible. On conseille de manger évidemment toujours des légumes à tous les repas et d'éviter la protéine le soir pour une meilleure digestion et du coup un meilleur sommeil. Les moyens de récupération également, c'est forcément de faire des exercices de respiration, j'en parlais tout à l'heure, mais si on n'a pas l'habitude on peut faire la cohérence cardiaque, par exemple, méditer, évidemment, tout faire en pleine conscience, je l'ai dit tout à l'heure, et surtout, accepter tout ce que vous faites. Ça, c'est important. Si on fait quelque chose, il faut vraiment le valider, quoi. On fait pas quelque chose parce qu'on nous a dit de le faire, ou parce que, enfin, c'est vraiment quelque chose où, ce que j'insiste, vraiment fortement, quoi. C'est-à-dire que, même quand on parlait d'alimentation tout à l'heure, si vous devez manger un Mars, mangez un Mars, quoi. C'est pas grave. On a le droit de se faire des petits plaisirs. L'idée, c'est pas d'en manger 15, quoi. Donc, acceptez quoi que vous fassiez.
Évitez de tomber dans la frustration, de faire des choses contre sa propre envie.
Ça, c'est vraiment la pire des choses, la frustration. C'est quelque chose qui
bah, ça tient jamais.
Et puis, ça apporte un mal-être important, quoi.
Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, là, ce que tu dis, ça apporte un mal-être. Je suis pas sûr d'en avoir parlé beaucoup. En tout cas, que c'est un thème, une réflexion qui soit revenue. Mais on parle souvent le fait de prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que ça va éviter donc trop de frustration, de craquer, de pas atteindre ses objectifs, etc., etc. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'en fait, s'imposer quelque chose qui nous plaît pas, en dehors de tout objectif réalisé, ça apporte du mal-être, quoi. Et on se sent pas bien, on prend pas de plaisir, donc on est en mal-être. Et ça va, c'est absolument contraire à la récupération, parce que si on n'est pas bien, ben on n'optimise pas le corps à faire tout pour récupérer, quoi. Enfin, c'est un peu con ce que je dis, mais
ça se tient. Non, c'est tout à fait vrai. Ça se tient complètement. Faut vraiment être, c'est pour ça, pleine conscience, accepter, et vraiment faire les choses, dans le bon sens, et avec joie, et je dis toujours à des gens qui me disent, ouais, mais je comprends pas, en ce moment je me sens pas bien, je suis stressé, etc. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont, on va dire, pris entre des griffes, le boulot, les patrons. espèce de pression un peu. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont soumis à ce genre de choses. Aujourd'hui, posez-vous, revenez aux bases. La famille, les gens que vous aimez, ce que vous aimez faire surtout. Si vous aimez aller vous promener en pleine nature, ça fait du bien, ça recale un peu les idées. Appeler des gens que vous aimez, parler avec des gens que vous aimez. Enfin, voilà. Essayez d'aller chercher et de revenir aux bases. Et ça, c'est fondamental. Fondamental.
Ouais. Alors, c'est un des moyens, effectivement, les plus efficaces, ça, d'améliorer sa récupération mentale, physique, psychique, se sentir mieux. J'aimerais qu'on l'aborde un petit peu après, hein, parce que c'est quand même une très grosse part de la récupération du corps, hein, c'est le côté mental, psychique. Et est-ce que là, peut-être, on peut aborder à ce moment-là la cryothérapie, si on part du principe que une bonne récupération active a été mise en place, un bon sommeil, une bonne alimentation. Bon, déjà, ça réduit quand même pas mal de ça réduit le bassin de gens parce que déjà, si on fait tout ça, on n'est pas très nombreux à faire tout bien. Mais bon, on va dire que chacun essaye un petit peu de faire au mieux et donc il va cocher toutes ces cases. Voilà, j'essaie de m'étirer un petit peu, j'essaie de bien dormir, etc. Bon. Est-ce que maintenant, la cryothérapie, elle peut prendre son sens?
Bien sûr. Ça va déclencher un petit peu... déjà, ça va... En fait, la cryothérapie, ça accélère le processus de cicatrisation tissulaire. Donc, si vous voulez... Si je reviens tout à l'heure à l'hématome, au petit bleu. Si vous mettez du froid continuellement sur un hématome que vous avez, par exemple, sur le biceps ou sur la cuisse, le fait de mettre du froid, ça va vraiment accélérer sa cicatrisation. Et ben c'est exactement la même chose, mais pour tout le corps. Du coup, tout ce qui est micro-lésions, parce que quand on fait du sport, on crée des micro-lésions qui sont pas forcément, qu'on le sent pas, mais le corps est forcément un petit peu meurtri. Et donc, du coup, le fait de soumettre son corps à une température extrême va faire que on va récupérer beaucoup plus vite. Ça, c'est pour l'aspect, vraiment purement physique. Et dans la tête, on va déclencher un start, en fait, pour la récup dans sa tête. C'est-à-dire que on va choquer son corps. Donc, du coup, on va vraiment faire un switch off, switch on au niveau de la tête. On va plus du tout penser aux différents problèmes ou sujets qu'on a au moment. Et quand on sort, on est vraiment... on se sent bien, quoi. On a pris un petit reset, et justement, on s'installe, on boit un petit thé, on discute, on est vraiment détendu, quoi. Donc là, c'est vraiment la cryothérapie, elle est faite pour ça. Et on voit tous nos clients aujourd'hui satisfaits de cette technique, quoi.
J'ai vu sur votre site web que vous aviez donc de la cryothérapie qui était corps entier et une cryothérapie qui est dite localisée. Quelles sont les différences et pour quelles raisons on pourrait utiliser l'une plutôt que l'autre?
Alors, la cryothérapie corps entier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment soumettre son corps à une température extrême. Or, la localisée, c'est vraiment partie du corps par partie du corps. Et souvent, c'est utilisé notamment par les kinés. Moi, je préconise, enfin, en tout cas pour la localisée, chez Paul, la localisée est utilisée beaucoup plus à titre esthétique. Donc vraiment tout ce qui est cryolipolyse, perte de centimètres. Quand j'ai commencé à ouvrir ce centre, j'ai une amie esthéticienne qui m'a dit, tu sais, il y a plein de bienfaits, etc. Bon, j'ai vraiment fait le tour de la question. Et l'idée, c'est que ça faisait du bien. Il y avait notamment un soin visage où on avait fait une espèce de package récup où la personne était en soin visage. Donc c'est déjà un soin visage. Allongé, on a un soin visage complet, donc gommage, masque, plus application du froid, donc un effet tenseur, anti-rides, etc. sur le but esthétique, mais surtout ça fait un bien fou, quoi. On a l'impression de s'enfoncer dans le matelas. Et pendant ce temps-là, on faisait donc juste avant le soin visage, on emmenait la personne sur une cryo corps entier. Elle allait en soin visage et pendant le soin visage, on lui mettait le complexe sur les jambes. Donc là, je peux vous dire que là, ça fait à peu près une heure vingt de traitement. On ressort de ça. C'était vraiment la pause sportive. Donc, c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait assez bien. Pour revenir sur la cryo localisée, vu que nous, on n'est pas kiné. Aujourd'hui, moi, j'ai des partenaires kinés avec qui je travaille et qui le font. Mais pour moi, en tout cas, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'ai mal au genou, est-ce qu'on peut mettre la cryo localisée, j'ai vraiment constaté que le fait de mettre la personne sur une cryo corps entier et non pas sur de la localisée, même sur des traitements kinés qui va être, on va dire, ça va être, je sais pas, sur 5-6 séances, donc à revenir, etc. Je trouve que le mettre en corps entier, on enclenche un processus complet de vascularisation et de drainage. Et du coup, j'ai constaté que ça allait hyper vite, quoi. Donc oui, moi, je connais bien les deux. Je vois aussi d'autres marques de machines à pulvérisation froid sur la zone. Maintenant, moi, j'insiste vraiment et j'explique à la personne que le corps entier a vraiment tout un intérêt complet, quoi.
Est-ce que vous aviez d'autres appareils, d'autres moyens qui vont améliorer la récupération, des choses qui sont moins connues par exemple, ou alors c'est vraiment focalisé sur cryo quand même?
Alors tout début quand j'ai ouvert Pôle, c'était vraiment, on était spécialisé vraiment, enfin c'est vraiment que du froid. Et puis en avançant, etc., je me suis dit mais il y a tellement de techniques de récup aujourd'hui, il faut vraiment qu'on apporte plein de solutions aux gens. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, effectivement, un pôle, c'est un centre, c'est un lieu, c'est un business, effectivement. Mais au-delà de ça, moi, je suis vraiment tellement dans l'éducatif, dans le passionné, que j'ai vraiment envie d'expliquer aux personnes que récupérer, c'est pas que venir chez Pôle. Et du coup, ils peuvent le faire aussi de chez eux. Depuis tout à l'heure, on dit la récupération, c'est vraiment plus tu vascularises, mieux tu seras. Donc, à partir du moment où tu crées de la vascularisation, t'augmentes un flux circulatoire et donc ta récupération est enclenchée. C'est comme un drainage. Donc, tout début, j'ai parlé du bas de contention. Ça, c'est vraiment la première chose que moi je demande aux gens, si surtout ils peuvent investir. C'est vraiment dans des bas de contention. Et moi, je me réfère toujours à des marques qui sont sérieuses avec des études, et notamment BV Sport avec la Pro Récup. C'est vraiment, BV Sport, c'est des angiologues qui ont créé cette marque. Donc, il y a vraiment des études prouvées. Et donc, du coup, c'est vraiment, pour moi, la première chose à faire quand on termine un effort sportif. Tout de suite de mettre le processus de récupération en place. On se douche, tac, on met son bas de récup, notamment sur le bas BV Sport, on le porte celui-là 2 heures, faut pas le garder toute la journée parce qu'il est quand même il compresse assez fort. Donc ça, c'est une des choses. Après, on a le massage, qui est plutôt connu, hein, le deep tissue. D'autres techniques comme la pressothérapie.
Alors juste pour une petite astuce qui me vient en tête pour ceux qui n'ont pas de bas de contention, qui n'ont pas encore et qui voudraient s'en acheter mais qui n'en ont pas de suite là, ce qu'ils peuvent faire après une activité intense, après un marathon, après une séance jambes de musculation ou peu importe, c'est effectivement donc se doucher, faire une douche froide, ça peut aider, et puis passer quelques minutes, plusieurs minutes avec les jambes relevées, tu vois, contre par exemple sur le lit ou allongé par terre contre le mur, ça peut remplacer sans être autant efficace que ce que tu mentionnais, mais ça peut remplacer un petit peu les bas de contention pour améliorer la récupération sanguine et en tout cas
quoi qu'il arrive ça remplace pas. Maintenant c'est un bon début, et surtout quand on met des bas de contention de récup, il faut toujours mettre ses jambes en l'air dans un premier temps mettre ensuite.
C'est ça, ouais. Mais c'est ce que j'avais vu dans mes études. Moi, je me rappelle, un prof nous avait dit, justement, ça m'était resté en tête. Il avait dû le dire d'une manière qui m'avait marqué. C'est mieux de mettre les bas de contention. Enfin, c'est mieux. C'est fortement recommandé de les mettre avec les jambes en l'air, parce que déjà, ça va chasser le sang des jambes pour ne pas en fait mettre le bas et emprisonner le sang dans les jambes une fois qu'il est mis en fait. Je sais pas si je le verbalise bien, mais c'est un petit peu l'idée quoi. On chasse, c'est comme si on enlève on s'imagine une éponge, on va la presser pour enlever l'eau et puis ensuite on va mettre le bas. Je sais pas si ça te parle ce que je dis.
C'est ça. Ah, c'est ça, c'est totalement ça. Totalement ça. C'est totalement ça. Donc ça c'est vraiment pour moi ouais, c'est important hein, même effectivement c'est les personnes qui n'ont pas de bas de faire des mais du coup il faut essayer d'alterner, c'est-à-dire vous mettez les jambes en l'air on va dire 20-30 secondes, hop vous les remettez en position allongée et hop vous rebalancez les jambes en l'air et ça vous faites un petit va-et-vient 2-3 fois. Ensuite on peut s'automasser hein, massage automassage. Alors le mieux c'est quand même de se faire masser hein, c'est quand même le plus cool.
Ouais, on est complètement passif, c'est toujours plus agréable.
Ah oui, c'est sûr. Donc la pressothérapie, hein. La pressothérapie, c'est vraiment une contraction et un relâchement. Le mieux du mieux, alors ça c'est, je pense que c'est pas super connu et encore ça commence à l'être, c'est la pulsothérapie. Donc là, c'est la marque, elle s'appelle Stendo Laboratoire. Donc là, c'est comme un protocole de pressothérapie, sauf que c'est votre cœur qui synchronise le compresseur d'air. En fait, il y a une prise de pouls et le cœur donc envoie l'influx d'air au battement du cœur. Et donc là, c'est clairement ça dure 45 minutes. Ça, c'est incroyable. Ne serait-ce que déjà au niveau de la tête et du corps, à partir de 10-12 minutes, vous relâchez totalement, vous vous endormez quoi. C'est vraiment une vraie pause. Il y a vraiment des très 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 gros retours sur la pulsothérapie, le Stendo.
Alors excuse-moi, je suis pas sûr d'avoir complètement compris. En fait, ça c'est quelque chose qui va synchroniser avec le rythme cardiaque pour créer de la pression et relâcher, c'est ça?
Alors en fait, c'est vraiment on se base si tu visualises bien la pressothérapie. Donc la pressothérapie, tu connais, hein, c'est tu presses, tu relâches. Donc c'est souvent des bottes complètes qu'on a. La pulsothérapie, donc c'est vraiment il y a une prise de pouls, donc là on a une prise de pouls au doigt quoi, et en fait le cœur stimule le compresseur, donc c'est à dire qu'en fait l'influx d'air qui est envoyé dans les bottes quoi, ils sont au battement du cœur, donc en fait il y a une synchronisation au niveau système nerveux et je peux te dire que le rendu est assez incroyable. Je t'invite à aller voir sur leur site là, Stendo Laboratoire, c'est vraiment il commence à être assez connu.
Ah, je vais aller voir ça. Donc en fait, ça fait de la pression au moment, enfin, ça relâche la pression lorsque le cœur. On va essayer de simplifier, hein, mais tu vas me dire si c'est ça. Lorsque le cœur bat, en gros, c'est qu'il va y avoir une éjection de sang dans les muscles. Là, ça va. Là, les bottes vont relâcher pour permettre au sang de bien rentrer dans les muscles. Et pendant la période de inverse, lorsque la phase diastolique. Quand le sang va revenir vers le cœur, en fait, les bottes vont se contracter davantage comme pour augmenter l'effet de vascularisation, de pompe cardiaque. En fait, ça, c'est comme si ça la soutenait un peu plus. Est-ce que c'est ça ou pas?
Non, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est pas invasif. Et du coup, en gros, il y a à peu près 1000 pressions massantes par minute entre chaque battement de ton cœur. Mais c'est vraiment c'est hyper agréable en fait. Vraiment j'insiste sur la compression en fait et la détente
oui, non, mais
que ça procure.
T'as raison. On va pas s'embêter à de la technique poussée. Je pense que
c'est vraiment technique et du coup même si on explique à l'auditeur, si tu veux, ils vont même aller plus loin et du coup le Stendo procure de l'oxyde nitrique, etc. Donc du coup là on commence à rentrer dans des détails qui sont compliqués. Du coup ça je pense que c'est aujourd'hui, vaut mieux donner la marque et que la personne aille de son plein gré se renseigner sur l'appareil. D'ailleurs, c'est un appareil qui coûte assez cher. C'est un appareil que l'on retrouve généralement chez les kinés. Moi, vu que je suis pas kiné, mais en tout cas professionnel au niveau de la récupération, on s'est équipé et ils sont très contents parce qu'on a vraiment de très bons retours là-dessus.
Ok, donc toi, t'as fait, ouais, tu me l'as dit, hein, t'as fait une expérimentation toi-même et t'as trouvé ça assez incroyable.
Ah oui, oui. Ouais. De toute façon, tout ce que aujourd'hui se trouve chez Paul, tout a été testé plusieurs fois, plusieurs mois. Quoi. Il y a quelque chose aussi dont je voulais vous parler et que j'ai été très surpris et on en commence à en voir de plus en plus, c'est le pouvoir de la lumière rouge, la photobiomodulation. Donc ça, c'est moi l'appareil que j'utilise, c'est le Life Plus. En fait, ça, c'est une lumière rouge. Ouais, non, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus sur le marché. Pareil, avec des études prouvées scientifiques. Hein. C'est vraiment une lumière qui est, c'est comme une espèce de pad, pas plus gros qu'un téléphone, qui envoie de la lumière rouge en fait, ça agit sur directement la mitochondrie. En fait, ça accélère la régénération de la mitochondrie.
Ok, qui est un des organites de la cellule qui permet de fournir l'énergie. En gros, hein, enfin pas que, mais pour simplifier, ce qui se demande ce qu'est une mitochondrie. En gros, c'est un petit truc dans la cellule qui vous permet de vous fournir de l'énergie, notamment. Et alors, question bête, mais pourquoi une lumière rouge et pas une lumière bleue, par exemple? Est-ce que tu sais ça
je suis pas sûr de connaître la réponse, mais okay. En tout cas niveau, si tu veux les photons, là c'est ça s'appelle photobiomodulation ou photothérapie. Donc c'est pas du tout douloureux, hein. Pas de décharge électrique, pas de stimulation corporelle, etc. C'est vraiment tu peux sentir une légère chaleur, quoi. Mais si tu veux, les photons de la lumière, ils viennent stimuler le processus naturel de régénération au niveau cellulaire. Donc il y a pas de, c'est vraiment limite, en fait, tu pourrais. C'est pour ça qu'au début j'ai eu du mal à intégrer cet appareil, parce que je me suis dit, mais c'est bullshit, quoi. Est-ce que c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, placebo ou non? Et en fait, non, sur plein de tests, sur des sportifs, si tu veux, ils étaient à la base sur des trailers. Et après 15 heures de trail, les gars, ils arrivaient, ils s'asseyaient. Donc évidemment, après 15 heures de trail, t'as les jambes, ils sont en carton. Ils s'asseyaient, ils mettaient un Life Plus sur un quadri. La machine, le service, ça dure 6 minutes. Au bout de 6 minutes, donc dès que la machine s'éteignait, on lui demandait à la personne de se lever et de marcher un petit peu. Et les gens, y avait vraiment 100% des gens qui disaient, mais c'est incroyable la vitesse de régénération cellulaire. Incroyable. Donc je vous pousse à aller aussi regarder ça. Donc Life Plus. Après, il y a d'autres marques qui commencent à se mettre à travailler sur la photobiomodulation. D'autres appareils, évidemment, un peu peut-être plus connus de la marque Compex, hein, l'électrostimulation de l'appareil. Hein. Compex, commence à le connaître aussi de chez les kinés. Au niveau maintenant, on commence à vraiment le voir de plus en plus avec. À Compex, ils font aussi du pistolet massage, etc. Une autre marque, hein, qui est peut-être un petit peu moins chère, qui est arrivée, qui est française, s'appelle Bluetense. Voilà.
Ouais, Compex, après, il me semble que j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Simplement, hein, je veux dire. Pour rappeler à ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est Compex, c'est l'électrostimulation, hein. On pose des électrodes, en fait, et puis ça crée une contraction du muscle, puisqu'on lui envoie un signal nerveux, et en fait tu peux régler l'intensité du signal nerveux pour avoir une contraction musculaire qui va être forte, moyen forte, et puis il y a même plusieurs programmes, programme récupération, programme préparation à un effort, programme blessure, etc., etc.
Okay. De toute façon, plus on utilise aujourd'hui de techniques différentes, j'en reviens tout à l'heure à ce que je disais, hein, la pluridisciplinaire, être pluridisciplinaire, va forcément avoir un intérêt. C'est comme dans ton entraînement, plus tu croises plus mieux tu seras. Et la récupération, c'est pareil.
Et je vais ajouter aussi, peut-être pour conclure sur tous ces moyens de récupération. Donc, tu as parlé du massage, donc effectivement la kiné. Alors ici, la massothérapie aussi. Je compte faire un épisode spécial massothérapie. Avec quelqu'un que je connais très très bien et qui aura énormément de bonnes infos à apporter. Et puis bon, pour finir, enfin, il n'y a pas que ça. On peut aussi parler de l'acupuncture. J'ai fait un épisode spécial sur ça. Spécial.
J'ai des thérapeutes justement. Là, on parlait de technique. Maintenant, les thérapeutes que j'ai chez Paul, parce que pour moi, il faut aussi des experts en tout. Et donc, en nutrition, j'ai un diététicien qui est incroyable. Ça s'appelle Charles-Antoine Winter. Acupuncteur, j'ai un très bon acupuncteur. Et j'ai d'ailleurs, peut-être que tu le connais, j'ai un fasciathérapeute qui vient, qui a bossé d'ailleurs à Montréal, donc peut-être que tu le connais. Il s'appelle Grégory. Son Instagram, c'est Fascia Sport.
Faudrait que je regarde Fascia Sport. En tout cas, c'est facile à retenir.
Et du coup, ça c'est aussi incroyable parce que le fasciathérapeute, bon, évidemment, vous c'est pour vous c'est massothérapeute, etc. Il y a des techniques de massage quand même assez que moi je connaissais pas et du coup qui sont assez intéressantes et importantes à connaître. Donc lui là, il a vraiment des connaissances. Et évidemment, j'ai aussi un chiropracteur qui est aussi là-bas, et un ostéo qui vient de temps en temps, qui est dans le sud de la France et qui vient une fois par mois.
Ouais, voilà. Je voulais en conclure un peu sur ça puisque c'est mon activité aussi. C'est vrai que l'ostéopathie, on en parle peut-être un peu moins pour ce qui est de la récupération. Ça va être moins connu que toutes les disciplines ou tous les moyens qu'on a énumérés jusque-là. Encore que c'est vrai que la chiro n'est pas non plus quelque chose qui est reconnu pour la récupération, mais ça a son rôle aussi. J'ai envie de faire un épisode avec un chiro. J'en inviterai un dans ce podcast pour qu'on aborde tous ces éléments. Et je le dis très souvent aussi, mais je voudrais faire un épisode spécial ostéopathie, vraiment aborder tous les sujets de fond en comble. On passera évidemment sur la récupération des sportifs. Je le dis très souvent parce que j'ai eu des ostéos sur le podcast. J'ai pas été spécifiquement sur des sujets qui sont, on va dire, uniques à l'ostéopathie. Hein. J'ai souvent parlé un peu d'acupuncture, de récupération sportive, etc. D'amélioration d'équilibre de posture, mais je m'adresse aux auditeurs, hein, je ferai un épisode avec un ostéopathe. J'ai une très très bonne idée de qui c'est que j'aimerais inviter sur un épisode pour parler de tout ça. Vous allez fondamentalement apprendre énormément de choses. Donc voilà, bon, pour conclure un petit peu la boucle de tous ces moyens de récupération, voilà, fascia, masso, ostéo, chiro, on est d'accord. Peut-être des questions qui sont un peu plus légères, on va dire, ou qui rentrent moins en profondeur, mais moi que je m'étais noté parce que je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Déjà, est-ce que, j'imagine, tu connais donc la méthode Wim Hof. La méthode Wim Hof, c'est celle qui consiste à prendre des bains glacés. Est-ce que toi, t'es d'accord avec ces principes-là? Est-ce que tu penses que c'est bénéfique? Est-ce que tu penses qu'il y a des dangers? On voit un petit peu de tout sur les réseaux, sur le web. Quel est ton avis sur ça?
Moi j'ai un super avis. Hein. Je trouve que c'est super bien. Après c'est beaucoup plus mental. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où le corps est en contact de l'eau froide, ça devient vraiment du mental. C'est pour ça que lui travaille vraiment sur la respiration aussi, qui est du coup pour moi pas forcément tout le temps adapté à tout le monde. Parce que sa respiration, elle est vraiment, je vais dire brutale, mais elle est elle est importante. Elle n'est pas du tout comme la personne respire de tout le temps, quoi. Donc, si on n'a pas l'habitude,
on serait presque finalement sur une activité intense à part entière et pas focalisée sur de la récupération spécifique là, sur de la méthode Wim Hof, si je comprends bien.
Bah, oui et non, parce que du coup il y a quand même les deux, c'est-à-dire que on met son corps dans du froid, on a ce côté analgésique, et du coup on met son corps en processus de cicatrisation, quoi qu'il arrive. Et en plus, on travaille sur sa respiration. C'est juste que ce que je dis, c'est que l'idée, c'est pas de s'y mettre si on est novice. Et du coup, de faire doucement par doucement. C'est le même principe pour la douche. Hein. La douche froide, si vous passez de 35 degrés à 5-6 degrés, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment y aller step by step et tourner la manivelle doucement. Quoi. Maintenant, moi, ouais, je valide totalement...
T'as raison de dire ça parce que, excuse-moi, je te coupe juste 30 secondes. Je repense à, par exemple, Tony Robbins, donc il est un acteur du développement personnel aux États-Unis qui est extrêmement connu. Enfin, ouais. C'est une star mondiale. Dans son documentaire Netflix qui est I'm Not Your Guru, notamment, on le voit avant ses spectacles, avant de monter sur scène et de faire son show et sa conférence, en fait. Il se plonge dans de l'eau glacée chez lui et en fait il fait plusieurs allers-retours. Je sais pas si on pourrait apparenter ça à de la méthode Wim Hof, parce que enfin c'est ouais si c'est ça dans un sens et on voit que ça lui procure une énergie de fou, etc. Faut bien se dire que il le fait le matin et peut-être même à jeun. Les plus experts me contrediront ou pas. Faut quand même faut dire qu'on fait pas ça du jour au lendemain, quoi. Je veux dire, c'est ça se met en place progressivement.
Non, bah, de toute façon, c'est progressif et c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment step by step. Et de toute façon, rien ne s'apprend. Enfin, on va pas courir à 100 mètres à la vitesse de la lumière tout de suite. Hein. Que vraiment y aller doucement.
Et justement, est-ce qu'il y aurait des dangers à effectuer ce genre de pratique? Sans faire des espèces de paliers comme ça d'adaptation.
Danger, qui aujourd'hui va se mettre un défi de sauter dans un lac gelé. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup beaucoup de monde. Maintenant, oui, faut quand même faire attention. C'est pour ça qu'il y a toujours du monde autour. Dans tous les stages que Wim Hof fait, j'ai toujours dit qu'il fallait que j'en fasse un, mais j'ai pas eu le temps encore, mais. Maintenant, on sait très bien que, par exemple, même à l'INSEP, hein, ils ont tout ce qui est bain chaud, bain froid. Moi, je rêverais de mettre l'expérience bain chaud, bain froid, parce que je sais que bah, là, on est dans ce qu'on a dit tout à l'heure, l'effet du chaud, l'effet du froid. C'est comme la machine de cryo, qu'on voit un petit peu du chaud et qu'on voit du froid derrière. C'est bénéfique pour le corps, hein. Ça, c'est certain. C'est certain.
Ok. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour là sur ce qui existe. Moi, j'avais juste ces deux petites questions sur la méthode Wim Hof, sur les douches froides. Peut-être une dernière dis-moi.
Sur le bain froid, je voulais juste revenir sur le ce qui était précurseur, hein, à tous les sportifs prenaient des grosses poubelles, mettaient des glaçons dedans et tous les rugbyman étaient dedans à chaque fin de match.
Ouais, c'est vrai. Ouais, on voyait ça sur les Coupes du Monde quand ils faisaient des reportages chez l'équipe de France. On les voyait se foutre dans des poubelles de glace comme ça.
Ça fait des années. Et pour revenir à tout à l'heure à ce que tu disais par rapport à, quand on parlait d'ostéo, chiro, etc., il y a vraiment quelque chose de fondamental pour moi et c'est aussi pour ça que j'ai mis tous ces thérapeutes en place et notamment donc toutes personnes qui travaillent sur la posture. Il y a des gens qui viennent me voir chez Paul et me disent « Steve, j'ai mal là, j'ai mal ci, j'ai ça ». Mais les gens ne font pas des bilans de posture, les gens ne... Du coup, ok, ils vont traiter la douleur, ils vont traiter le mal, mais si le corps est déplacé, si vous avez des vertèbres de décalé, si vous n'êtes pas axé, forcément, vous allez déclencher les douleurs. Donc l'idée, c'est quand même de travailler sur le fond et pas la forme. Et pas que la forme. Donc là c'est vrai que pour moi le praticien comme toi, comme l'ostéo, le chiro aujourd'hui a un vrai point c'est important en tout cas de d'être sûr que son corps est aligné, quoi.
Ouais, mais t'as entièrement raison. Moi j'aime bien prendre à la limite un exemple hyper concret. Par exemple, sur un problème de posture, tu vois, on parle de posture, donc on va rester là-dessus, avec un déséquilibre, admettons, ça provoque sur une articulation, peu importe l'articulation, on va dire la hanche, pour que les gens ils aient une visualisation précise en tête. Donc, admettons, il y a un déséquilibre qui provoque une compression, ou en tout cas, plus de tension sur l'articulation de la hanche droite, admettons. C'est vrai qu'ils vont pouvoir... Donc, cette hanche va être surmenée à la marche, aux activités, etc. Elle va prendre plus de travail, elle va faire plus de travail, elle va compenser des structures. Donc elle va être très souvent sollicité. Si on accélère le processus de récupération de cette hanche, c'est très bien. Donc en faisant les choses qu'on a mentionnées, hein, des étirements, de la cryothérapie, des douches froides, enfin tout ce qu'on a mentionné, admettons la personne fait l'ensemble de ces choses-là, c'est très bien parce que cette hanche, elle va récupérer, bon très bien, mais le problème c'est qu'en fait on met un petit peu un pansement, en tout cas on agit sur des conséquences, mais pas réellement sur la cause qui fait que cette hanche a besoin de récupérer plus, a besoin d'être plus souvent récupérée parce que sinon elle va se fatiguer. Donc si on travaille sur l'équilibre, si on travaille sur la posture et qu'on enlève du stress trop important à cette hanche, déjà ça lui permet déjà de récupérer d'elle-même, dans un sens que le corps fasse son propre travail, et puis tous ces éléments de récupération vont être plus efficaces et vont tenir beaucoup plus longtemps.
Oh, ça c'est sûr, ça c'est fondamental pour moi. Il y a vraiment et ça pour tout. C'est-à-dire que la dernière fois, il y a quand même quelqu'un qui est venu et qui me dit bonjour, j'ai entendu parler de la cryothérapie, etc. On m'a décelé une capsulite, etc. Apparemment, la cryothérapie améliorait la cicatrisation de capsulite. Bon, j'étais occupé avec des clients, etc. La personne remplit une espèce de... On a un questionnaire pour savoir, parce qu'il y a quand même des choses... pour être sûr que la personne n'a pas de pacemaker, que son état de santé est ok, etc. La personne fait une séance. Moi, j'ai fini mon rendez-vous et donc la personne me parle en me disant voilà, est-ce que vraiment c'est bénéfique, est-ce que je dois faire plusieurs séances, etc. Donc là, je commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet et la personne me dit bon, combien ça coûte. C'est quoi vos forfaits, enfin, etc. En gros, vous allez pas me vendre votre popote, quoi. J'ai arrêté tout de suite le monsieur. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, moi, je suis pas ici pour faire du business et vous vendre des séances. J'aimerais juste que votre épaule aille mieux et que vous allez mieux. Maintenant, je vais vous regarder franchement dans les yeux et je vais vous dire quelque chose. C'est que la capsulite, c'est pas forcément quelque chose de, effectivement, c'est traumatique, vous avez mal à l'épaule, mais c'est beaucoup psychologique, une capsulite. Donc là, le monsieur me regarde bizarrement, je dis, pour moi, je vous connais pas, mais je sais qu'il vous est arrivé quelque chose il y a pas très longtemps dans votre vie. Donc là, il était abahi, quoi. Et donc la personne elle me répond, et je lui dis, vous avez eu quelque chose, un problème de famille, vous avez perdu votre travail, etc. Et oui, j'ai perdu mon travail, c'était brutal, etc. Je suis parti en vélo et là on m'a renversé, je suis tombé sur l'épaule, etc. Donc effectivement il y a eu un choc, mais il a quand même concentré cette douleur aussi psychologique dans son épaule. Et donc la personne, je lui ai posé quelques questions simples. J'ai dit, mais vous êtes parti en vacances? Il dit, oui, je suis parti en vacances il y a 2 mois. Donc ça y est, l'accident est arrivé il y a 8 mois, je crois. Et donc je dis, ok, vous êtes allé où? Il dit, bah, j'ai fait une semaine de thalasso. Je dis, ok, très bien. Et pendant cette semaine, vous aviez eu mal à l'épaule? Et là, il dit, bah, non, c'est vrai que j'avais plus mal à l'épaule, etc. Quand je suis revenu, j'avais mal. Et j'ai dit, là, vous vous posez pas de questions, etc. Que la tête est reliée à l'épaule. Il dit, mais comment vous savez ça? Je dis, vous savez, moi, je suis aussi hypnothérapeute, donc il y a pas mal de choses que je sais. Et donc, les capsulites, vous n'êtes pas la première à arriver dans le centre avec une capsule, donc juste voilà, prenez conscience et aussi avancer là-dessus. Donc c'est le lien, il est quand même important à comprendre. C'est le corps et la tête, c'est assez important, et donc du coup il faut travailler sur les deux. Et donc là, quand on parlait tout à l'heure de posture, etc., c'est pareil. Aujourd'hui, si on a une douleur, il faut quand même savoir pourquoi on l'a. Donc, il faut accepter, je sais pas, aujourd'hui, un sportif qui est blessé ne veut pas être blessé. C'est vraiment impensable pour lui. Donc, il va essayer d'avoir plein de techniques pour guérir et, enfin, se réparer vite de sa blessure. Mais s'il n'accepte pas la blessure et qu'il essaye continuellement de quand même s'entraîner et il force un petit peu, etc., mais il va jamais guérir, il va jamais retrouver son corps d'avant, impossible.
Et là où c'est intéressant, comme tu dis, c'est vraiment cette interaction corps-esprit, psychologie aussi. Puis pour faire le parallèle, on peut aussi dire qu'une mauvaise posture peut être conséquente d'un état de mal-être, d'un état de dépression. Hein. Je veux dire, on voit rarement des gens qui ont extrêmement confiance en eux et qui sont bien dans leurs bottes, avoir les épaules voûtées vers l'avant. Tu vois, donc il y a quand même une imbrication entre son mental, sa posture, etc. Et j'en parlais dans un épisode juste précédent, enfin pas précédent, mais c'était avec Théo de Fitness Smith, qui au moment où on enregistre ce podcast, il n'est pas encore sorti, sur un livre qu'a écrit Jordan Peterson, qui est les 12 règles pour une vie, 12 rules of life, en anglais, avec l'accent. Une des premières règles qui était justement la posture, tenez-vous droit, et c'est hyper intéressant dans ce chapitre, il aborde la confiance, la posture, donc voilà, bon, si c'est des choses qui intéressent les gens, ils peuvent aller voir dessus. Ce qui soutient un peu ce que je veux dire là, c'était pour donner un exemple, mais entre la posture, l'équilibre du corps et le côté psychique, stress, surmenage, ou au contraire, bien dans sa peau, à l'aise et en confiance, il y a quand même une très très forte corrélation. Ce qui rajoute encore plus de paramètres, de facteurs, de choses à aller investiguer, à aller rechercher, pour toujours essayer de trouver comment améliorer, là en l'occurrence, sa récupération. Et justement, un truc qui revient souvent là sur tout ce qui est récupération psychique, mentale, amélioration de son psyché, on parle très souvent de la méditation, surtout en ce moment, hein, c'est la mode. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la mode, toi étant aussi hypnothérapeute de ton côté, tu penses que c'est quelque chose qui est véritablement efficace et recommandé pour diminuer le stress?
Bien sûr. Bah déjà, méditer, c'est aussi se recentrer. Donc c'est quelque chose de très important et c'est un moment où on se retrouve, où on prend du temps pour soi. Donc déjà là, vous avez déjà enclenché un protocole. C'est sûr que j'invite beaucoup de personnes à le faire et ils se sentent beaucoup beaucoup mieux. Sans parler de méditer, mais même comme j'ai dit tout à l'heure, je coach des cadres sup, etc., qui sont parfois stressés. Et j'ai des fois des appels de clients en disant, je suis pas bien, je suis stressé, je respire mal, qu'est-ce que je dois faire? Ça, je dis, écoute, moi, je suis pas médecin, voilà, moi, ce que je peux te conseiller, là, je pense, c'était totalement stressé. Je dis, fais un petit exercice de cohérence cardiaque, pendant 5 minutes, et puis, tu me rappelles, dès que t'as fini, quoi. Et ne serait-ce que de se prendre son temps, de faire de la cohérence cardiaque. Alors aujourd'hui, la cohérence cardiaque, vous avez des applications faciles comme Respirelax qui fonctionne très bien. Vous suivez l'application, vous respirez, et du coup, là, c'est pas, je dirais pas que c'est méditer, faire de la cohérence cardiaque, mais déjà, c'est de prendre du temps pour soi, de se concentrer sur sa respiration, et derrière, forcément, on se sent mieux. Forcément. On a les idées plus claires, on est plus calme, on est détendu, on n'est plus dans la nervosité, dans la recherche de toujours bien faire, toujours être au top. C'est vraiment quelque chose de très important, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de respirer, parce que les gens ne respirent pas assez, et ça c'est pas bon.
Et il y a du lâcher prise aussi avec ça, ce qui fait beaucoup de bien, surtout dans cette... pas dans cette société là où bon, tout va vite, tout va extrêmement vite, il y a beaucoup de pression perso, pro, et de manière personnelle, moi, tu vois, j'ai expérimenté la méditation, alors pas que la cohérence cardiaque, c'est quelque chose que je connais pas bien, mais la méditation, j'en ai fait pendant à peu près un an. J'ai pratiqué ça chaque jour avec des applications qui te permettent de te plonger dans un état comme ça de méditation où t'as quelqu'un qui te parle dans l'oreille et tu suis les instructions en quelque sorte. Et,
bien sûr.
Et ben, j'ai trouvé ça hyper intéressant, tu vois. Ça permet vraiment d'améliorer son focus. Alors, je le fais plus. J'ai perdu complètement l'habitude à un moment donné. J'ai décroché et je m'y suis pas remis. Alors, est-ce que je peux dire que ça a complètement transformé ma vie? Non. Voilà, mais ça, c'est mon expérience personnelle. Par contre, j'en ai trouvé du bénéfice, ne serait-ce que pour se recentrer, pour mieux respirer, pour prendre conscience des choses. Et en fait, la méditation, tout le monde trouve ça dur, Enfin, je connais personne qui essaye la méditation, qui n'a jamais fait à l'âge de 20 ou 30 ans ou 40 ans et qui dit « Oh, c'est super facile, moi j'arrive. » En fait, tout le monde trouve ça dur. Et quelque chose que j'ai lu récemment dans le dernier livre de Mark Manson qui est sorti, qui est le « Tout est foutu », ouais. Un livre sur l'espoir, qui est un livre extrêmement intéressant que je recommande. Il disait justement que c'était ça le but en fait, c'est que la méditation c'est hyper difficile, tout le monde trouve ça difficile. Et que c'était ça qu'il fallait accepter, parce qu'il y a plein de pensées qui te viennent en tête, et si tu veux, le but de la méditation, c'est d'arriver à voir ces pensées qui arrivent, les relâcher, accepter qu'elles sont là, les relâcher, puis les oublier, en quelque sorte, hein, je veux dire, je suis pas un pro. Et puis Mark Manson disait dans ce livre justement que c'était toute cette difficulté-là qui faisait que ça méritait le coup d'être fait, en fait, et que c'était accepter qu'on était nul en méditation qui faisait que ça devenait intéressant. Enfin, bon, il le dit beaucoup mieux que moi. Moi, je résume ça un peu à l'arrache, comme ça. Mais ça donne vraiment une perspective de pourquoi on fait ça, de quel va être l'objectif. Et puis, si on retombe sur nos pattes ici, sur diminuer le stress, c'est aussi accepter certaines choses, c'est relâcher la pression. Et puis ça joue sur le bien-être. Hein, je veux dire, on relâche, on accepte, et puis on se sent mieux. Bon, si on fait un raccourci gros comme ça.
Ah oui, non, c'est sûr. De toute façon, à partir du moment où on prend du temps pour soi, déjà on se fait du bien.
Ouais.
Déjà on se fait du bien.
Ouais, non, mais
aujourd'hui, dans la récupération, on va dire oui, mais parce que du coup, avec toutes ces expériences, avec le pôle, l'hypnothérapie, etc., tout ce que je fais depuis ces années-là, j'ai commencé à donner des conférences sur la récup. Et j'ai commencé notamment au salon du running et tu te rencontres, tu vois dans les yeux des gens qu'ils acceptent pas la pause en fait, ils acceptent pas de se donner du temps pour être mieux. Et ça c'est quelque chose qui est quand même assez fou parce que ils essaient de trouver moult de techniques pour dire mais comment je vais être mieux pour faire ça. En fait, c'est devant eux quoi, c'est devant leurs yeux et surtout combien de personnes sont venues me voir en me disant « Steve, je cours le marathon le week-end prochain, j'ai mal au genou, qu'est-ce que je peux faire ?» Mais qu'est-ce que tu peux faire déjà? Tu vas pas courir le marathon déjà. Déjà, c'est comme si je te mettais devant un fait, c'est qu'en fait t'es en voiture, t'as plus de frein, t'es en famille et tu fais Paris-Marseille. Est-ce que tu vas à Marseille ou tu vas pas? Ah, t'y vas pas, t'as pas de frein.
Mais c'est d'une évidence absolue quand on prend un espèce de recul ou quand c'est quelqu'un d'autre qui donne le feedback. Mais c'est vrai que sur soi, c'est des fois tellement difficile et je m'inclus dedans. Hein. C'est-à-dire que, on va dire que grossièrement, je vais savoir quels sont les meilleurs moyens pour me sentir mieux, pour être plus efficace, peut-être plus productif et puis moins en stress et puis savoir prendre des pauses, etc. Tout ce qu'on a dit. Mais tu sais que t'as le cerveau logique. Et puis t'as le cerveau un peu émotionnel qui fait que c'est très difficile des fois. Moi-même, je on va dire que tout ce qu'on a dit là sur les 5-10 dernières minutes, j'en ai pleinement conscience. Mais quand t'es dans le truc, eh ben j'ai du mal à me poser aussi, tu vois. Il faut toujours que je fasse des choses. C'est vraiment pas facile.
Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, il y a aussi tout ce qui est les séries, Netflix et compagnie. Ça, c'est entraînant, c'est-à-dire qu'en fait quand on va regarder une série, on va regarder un autre épisode et puis du coup bah la récup elle est faussée hein. Parce que quand on voulait se coucher à 22h 22h30 et qu'on regarde l'heure et qu'il est minuit 1h, bah forcément quand il faut se lever à 6-7h, bah on a moins bien dormi, donc là la récupération n'est pas très très bien enclenchée.
Et est-ce que cette prise de conscience justement sur cette société où tout va vite, où il faut absolument du divertissement, faire des choses, on perd le temps de prendre soin de soi, hein, pour dire les choses de manière générale, est-ce que cette prise de conscience, toi, c'est ce qui t'a amené justement à vouloir ouvrir ton centre de récupération qui s'appelle donc Pôle Récup? Dans quel état d'esprit t'as lancé ce projet?
Vraiment, simplement pour apporter des solutions de récupération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde en fait de plus en plus et récupère de moins en moins. Donc c'est pas possible d'aller toujours courir contre des techniques de comment faire pour récupérer mieux. Moi je pense que c'est vraiment important de effectivement d'avoir des techniques sous le coude toujours pour améliorer sa récupération, mais surtout faut pas courir. Faut pas courir toujours à être le meilleur, quoi. Enfin, il y a des solutions, mais du coup, il faut mettre tous les petits ingrédients et vraiment être, comme j'ai dit tout à l'heure, pluridisciplinaire. Faites plein de choses pour être au top. Et pour vous faire du bien, surtout. Pas faire comme le copain qui, déjà, on n'a pas les mêmes qualités physiques. Donc, il y a le copain qui va envoyer de la vitesse et qui va aller beaucoup plus vite sur un temps. On n'est pas forcément tous égaux. Et derrière ça, faites-le pour vous.
Est-ce que, moi, c'est un truc que j'aime bien savoir. Si t'as envie de peut-être nous le partager, tu vas me dire. Est-ce que t'as eu des difficultés, des obstacles que t'as rencontrés lorsque t'as ouvert ton centre, lorsque t'as voulu développer ce projet-là, peut-être des difficultés dans le message, peut-être des difficultés à faire prendre conscience aux gens de l'importance justement de faire attention à eux, peut-être d'essayer la cryothérapie, des choses comme ça, ou d'un point de vue entrepreneurial, moi c'est des thèmes qui me passionnent généralement.
Côté entrepreneur, pas plus que ça, hein. Prêt bancaire, travaux, voilà, on est au niveau entrepreneurial, voilà. Après, on n'était pas beaucoup sur le secteur de la cryo. Après, il y en a eu pas mal qui se sont ouverts sur Paris, puis fermés, parce que c'est comme tout business. Je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Et quand je dis toujours, on n'est pas boulanger la veille et derrière le lendemain dans le monde de la récup. Je pense qu'il faut maîtriser son sujet. Même si c'est aujourd'hui un business et qu'on entend parler de la cryo de plus en plus, faut quand même maîtriser son sujet. Moi, le sport et la récup, c'est quand même une passion depuis pas mal de temps. Ne serait-ce que même Compex, qu'on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai été coach Compex depuis, je sais pas, ça fait peut-être 8 ans. Éduquer les sportifs à mieux récupérer pour de meilleures performances, c'était pour moi une énorme satisfaction. Et force est de constater que depuis 4 ans, c'est vraiment une validation, quoi. Donc maintenant, des difficultés ou des obstacles, non, je pense pas que ça a été. Après, être entrepreneur, c'est vraiment gérer.
Mais c'est une vie d'obstacles.
C'est une vie d'obstacles. Je vais être vulgaire, mais c'est gérer des emmerdes continuellement, parce que ce soit les charges ou la copro ou le, enfin voilà, quand on a une boutique, un lieu, il y a toujours des choses, hein, une vitrine, des classes sur la vitrine, enfin j'en passe, mais ça c'est vraiment c'est de la gestion continuelle, quoi. Pas de problème.
Puis je sais plus où c'est que j'avais entendu ça, c'est une phrase qui est assez connue, c'est qu'être un entrepreneur c'est se lever et en fait gérer des emmerdes toute la journée au final, c'est ça quoi.
C'est ça. Mais bon, c'est ok. Hein. Enfin, après.
Ouais, mais c'est les emmerdes qu'on a choisies. C'est ça qui est intéressant.
Oui, et puis le staff que moi j'ai recruté, je le forme. Les gens qui travaillent chez Paul, ils sont vraiment motivés. Ils sont le sourire. Moi, je transmets mon savoir. Et ça, c'est gratifiant aussi. Donc, je dirais pas que c'est des mini-mois, mais en tout cas, ils sont intéressés par ce qu'ils font, ils sont contents de ce qu'ils font. Une personne qui rentre chez Paul, elle sort mieux que quand elle est rentrée. Donc ça, c'est vraiment gratifiant. Et c'est vraiment des choses. Ils ont appris des choses. Et puis c'est quelqu'un qui est pris en charge. Ils ont des solutions. Ça, c'est quelque chose quand même. Moi, je trouve que ce que j'ai fait de Paul, pour moi, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Et ça, je suis super content.
Et justement, est-ce que tout ce qui est tous les services que vous proposez chez Paul Récup, est-ce que vous visez particulièrement une clientèle qui va être sportive ou pas nécessairement, ça peut vraiment s'adresser à tout le monde?
Non, je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde, il y a de tout. J'en parlais tout à l'heure, des techniques que je proposais tout à l'heure, j'en ai parlé, ce sont les thérapeutes, les différentes techniques. Non, je pense que c'est vraiment pour tout le monde. J'ai vraiment tout profil. J'ai vraiment des personnes de 20 ans sportives qui ont vu les techniques, soit sur les réseaux, soit sur le site, etc., à la personne âgée qui a 85 ans et qui a des rhumatismes, qui ça lui fait un bien fou et qui a un abonnement chez Paul depuis 2 ans et quand il peut pas venir, enfin c'est une femme là, qui me vient en tête, quand elle peut pas venir, elle est pas bien, il y avait des grèves de transport, elle faisait tout pour venir, elle prenait le bus, elle mettait 1h30 alors que normalement elle met 15 minutes, mais elle venait faire sa séance de cryothérapie et ça pour elle c'est son pur kiff quoi, elle se sent tellement mieux après sa séance. Donc non, c'est tout public. La personne qui est stressée, qui travaille en finance, qui est totalement stressée, qui sort du bureau, qui vient faire sa séance et qui ressort tellement bien et qui va chez elle, qui repart chez elle, voilà, en état de bien-être et détente. Voilà, ça c'est un vrai service pour moi.
Est-ce que t'as des projets particuliers pour Paul Récup? Peut-être que t'as envie de, enfin, t'as une idée future de ouvrir une deuxième boutique ou peut-être d'autres ambitions à venir?
Moi, de toute façon, mon but ultime, c'est de démocratiser davantage la récupération et ouvrir. Forcément, ça serait topissime de pouvoir ouvrir d'autres lieux. Là, j'aimerais mettre en place la personnalisation individuelle de la récup, c'est-à-dire qu'en fait la personne se voit et par rapport à ce que lui fait, à son sport, à son mode de vie, etc., mettre des protocoles de récup en place, donc que ce soit par rapport à son budget, hein, s'il peut évidemment faire des choses qu'on pratique chez Paul, bah s'il peut le faire, qu'il le fasse, c'est cool. Mais s'il peut pas le faire, bah qu'il fasse avec ce qu'il a, quoi, en fait, ou ce qu'il peut avoir, en tout cas.
Parfait. Pour finir, j'aime bien poser 3 petites questions à la fin de chaque épisode. La première question, quel est le meilleur conseil que tu donnerais toi à quelqu'un qui voudrait se sentir en meilleure forme? Au-delà de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, on a évoqué énormément de moyens, énormément de pistes de réflexion, de choses que les gens vont pouvoir essayer. Mais si toi, tu devrais donner un petit peu une seule chose, ou alors en tout cas la première étape, qu'est-ce que tu dirais?
Franchement, vraiment, le premier conseil, c'est vraiment être à l'écoute de soi, essayer de s'écouter, de se faire du bien, de se faire plaisir, de vraiment faire les choses pour soi, quoi. Ça, c'est vraiment l'essentiel pour moi. Maintenant, on dit faire du sport, oui, c'est sûr, faire du sport, ça fait du bien. Maintenant, quelqu'un qui est pas sportif, de dire qu'il doit faire du sport, c'est un peu dur. Mais oui, je pense qu'il faut prendre soin de soi, s'écouter, prendre soin de soi, se faire du bien.
Deuxième petite question, est-ce qu'il y a un modèle ou un mentor, que tu considères quelqu'un comme un modèle ou un mentor qui t'a beaucoup inspiré?
Il n'y a pas vraiment de modèle ou de mentor que j'ai en vue là, comme ça. Après, voilà, tu parlais d'Anthony Robbins, qui est quelqu'un qui travaille sur le développement personnel, qui est incroyable. Mais je pense que être bien dans ses baskets, c'est voilà, profiter de la vie avec des vraies valeurs, ça c'est ok. Maintenant, un mentor comme ça, non, pas vraiment. Après, tout ce que tu peux entendre de positif, des personnes positives avec des projets positifs, ça c'est cool.
Enfin, une dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que t'aimes bien recommander, que t'as envie de recommander aujourd'hui?
Alors moi, j'ai un philosophe que j'entraîne qui s'appelle Charles Pépin, qui a écrit plusieurs livres, dont un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec, et donc du coup qui parle de comment gérer l'échec, il parle des échecs sportifs, des échecs de vie, et je pense que c'est un livre qui m'a bien touché, même si en plus de ça, moi je le vois assez souvent parce que je l'entraîne, mais je pense que oui, c'est un livre qui m'a assez marqué.
Ça lui donnera un petit coup de pub. Je vais le noter dans les notes de l'épisode pour ceux qui voudront avoir la référence. J'irai moi aussi jeter un œil. Les vertus de l'échec. Écoute, ça a été très intéressant. Je pense qu'on a abordé beaucoup de choses autour de la récupération, et même moi, en fait, il y avait beaucoup de moyens dont on a discuté que je connaissais pas trop, qui m'ont un petit peu ouvert la curiosité aussi pour aller chercher davantage. Si les auditeurs qui sont toujours là parce qu'ils ont été extrêmement intéressés par cet épisode, on les félicite d'être encore avec nous à ce moment-là. S'ils veulent en apprendre plus sur toi, s'ils veulent suivre Paul Récup, peut-être aller y faire un tour, voir ce qui se propose, où c'est qu'on peut leur conseiller de se rendre?
Bah, soit ils m'écrivent directement sur Instagram ou sur le site de Pôle Récup. Pas de problème.
Ok, bah, je laisserai les liens directement disponibles dans les notes de l'épisode. Comme ça, ils pourront t'ajouter sur Instagram, aller voir le site web. Je laisserai peut-être aussi l'Instagram de Pôle Récup, comme ça ils auront tout ce qu'il faut. Avant Super. De terminer ici, est-ce que peut-être tu aurais un dernier message à faire passer ou une chose à rajouter ?
Dernière chose, bon, je pense que c'est vraiment une conclusion assez simple de dire que faut arrêter de courir après le temps, prendre soin de soi, prendre soin des gens que tu aimes, s'écouter, se faire plaisir et vraiment voilà, revenir aux fondamentales, aux bases, et que tout ne se construit pas en un jour ou en une semaine, donc faut prendre le temps et voilà.
Bah écoute, c'était bien. Merci Steve d'être passé sur le podcast. Je te dis peut-être à très bientôt
merci
pour un
toi.
Prochain épisode et puis bon courage pour la suite également.
Et bah merci à toi. À bientôt Jérôme.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Merci à Steve pour avoir participé au podcast aussi. Si les informations que vous avez entendues au cours de cet épisode vous ont plu, pensez à me laisser un petit avis de 5 étoiles sur iTunes ou l'application Apple Podcast. Ça sera donc grandement apprécié. Moi, ça permet de faire monter le podcast dans les charts d'Apple, dans la catégorie notamment Health and Fitness. Et beaucoup d'entre vous qui écoutent les podcasts, je sais qu'ils n'ont pas encore noté l'émission. Si vous prenez un petit peu de votre temps pour le faire, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Et si vous n'avez pas d'iPhone, pour aller dans l'application et me laisser l'avis et le commentaire, vous pouvez essayer avec l'iPhone d'un de vos amis. Vous me dites ce que vous en pensez, vous laissez un petit commentaire de 2 lignes. Voilà, moi ça me fait plaisir. Comme ça, je saurai un petit peu ce que vous en pensez. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à l'un de vos proches, envoyez-le directement à un ami à vous qui aurait bien besoin d'une meilleure récupération, que ce soit physique ou mentale. Et enfin, pour recevoir mes emails privés, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la lettre biomécanique. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Il s'agit du premier lien. Le but de mes emails est de vous donner des conseils, de vous partager mes réflexions, toujours autour de l'entraînement sportif, améliorer votre condition, votre santé. Généralement, la lettre biomécanique part une fois par mois. Et puis, à chaque nouvel épisode qui sort, vous le recevez directement dans votre boîte mail. Comme ça, vous êtes sûr de ne louper aucun épisode du podcast. Voilà, tout ça, c'est à l'adresse biomecaniquepodcast.com/lettre. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode du podcast Biomécanique. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Améliorez votre récupération. Étirez-vous. Faites tout ce qu'il faut pour vous sentir au maximum de votre forme. Et puis... je pense que ça sera top. Et voilà. Allez, à très vite dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.